La plupart d'entre nous, nous avons dans notre entourage des personnes que nous aimons et qui sont hélas décédées. Ça peut être des grands-parents, ça peut être des amis, peut-être même des frères et sœurs, un conjoint, des enfants même peut-être. Et ces personnes, nous continuons à les aimer malgré la mort. Et dans cet évangile, dans ce miracle, le Seigneur nous invite à l'espérance pour elles. Et je voudrais en parler plus profondément en trois temps. D'abord en parlant de l'origine de la mort, puis de ce miracle du Christ, de la résurrection de la fille de Jaïr, et enfin en nous proposant quelques moyens concrets pour grandir dans l'espérance pour nos défunts. Nous l'avons entendu dans la première lecture, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, c'est-à-dire pour la vie, pour toujours, et non pour la mort. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. La révélation nous montre que si naturellement, eh bien, nous sommes mortels, surnaturellement, par une grâce spéciale de Dieu, l'homme et la femme à l'origine étaient protégés de la mort. Et à cause de la jalousie du diable, comme nous rapportent les premiers chapitres de la Genèse, l'homme et la femme trompés vont désobéir à Dieu, la conséquence sera la mort biologique, la séparation de l'âme et du corps. Cela est rappelé dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Romains au chapitre 5, et constamment rappelé par la tradition de l'Église, notamment par le catéchisme de l'Église. Une objection qu'on pourrait avoir, c'est de se dire « Ah, mais le début de la Genèse, c'est un mythe, c'est pas historique, c'est une histoire pour raconter des choses, mais qui n'ont pas de lien avec la réalité. » Alors non. Quand on compare le début de la Genèse avec les autres écrits des cultures environnantes, on voit que si les autres cultures veulent proclamer des mythes, des choses vraiment irréelles, le début de la Genèse rapporte des faits bien réels. Le style avec lequel est écrit ce passage le montre. De plus, nous savons que le livre de la Genèse n'est pas le produit de l'imagination humaine, mais de l'inspiration de Dieu. Si bien que l'Église dit que ces 12 premiers chapitres de la Genèse sont historiques, toutefois avec un langage simple qui n'est pas un langage scientifique. Ce serait d'ailleurs un petit peu embêtant. Imaginez que dans les premiers chapitres de la Genèse, on parle du Big Bang, qui a été découvert par le père Lemaire, un prêtre belge, au siècle dernier. Eh bien, toutes les générations précédentes n'auraient pas compris. Imaginez qu'on utilise le langage scientifique de l'an 3000, nous ne comprenions pas non plus ce départ. Mais c'est parce que Dieu est bon, avec un langage simple, il nous parle de ce qui s'est passé réellement. Et cette jalousie du diable se prolonge encore maintenant par le mépris de la dimension sacrée de la vie humaine. On peut penser à l'avortement ou à l'euthanasie, qui sont présentés sous un aspect apparemment de bonnes intentions, mais qui au final sont le mépris de la vie sacrée, la vie humaine. Tandis que Dieu lui-même, Jésus, qui est la vie, s'est fait pauvre pour nous enrichir. Lui qui est la vie éternelle a pris sur lui notre propre mort pour nous enrichir de sa vie éternelle. C'est ce qui s'est passé par la mort de la croix, et cette mort de la croix est annoncée déjà, et sa résurrection est annoncée dans ce miracle que nous venons d'entendre. Nous voyons le chef de la synagogue, Jaïr, qui tombe aux pieds de Jésus. Ce geste est propre à l'adoration de Dieu. C'est quelque chose de commun dans le Nouveau Testament. Il reconnaît l'identité de Jésus, qui est vrai Dieu. Et le Seigneur Jésus, pour fortifier la foi de Jaïr, opère un autre miracle avec la guérison de cette femme pour montrer sa puissance. Toutefois, la fille de Jaïr vient de mourir quand même, et certains disent « À quoi bon déranger le maître ?» Ils pensent que Jésus n'est pas capable de ressusciter cette jeune fille. Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et nous voyons aussi la compassion du cœur du Christ pour cette famille. Jésus entre, dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Saint Bède le Vénérable, en commentant ce passage, dit ceci « Elle était morte, en effet, pour les hommes qui ne pouvaient la ressusciter, mais elle dormait aux yeux de Dieu. » Parce que si elle était réellement morte, c'était provisoire comme un sommeil. Et saint Bède continue en disant que depuis ce moment-là, la coutume pour les chrétiens est d'appeler leur mort ceux qui dorment, puisque la résurrection va leur arriver. Ainsi, le mot cimetière, qui est très commun, vient du mot grec koimeterion, qui veut dire le lieu où l'on dort. Dans cet évangile, nous voyons Jésus saisir la main de l'enfant et lui dire Talita cum, ce qui signifie jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. À la différence de saint Matthieu qui écrit pour des juifs et donc qui garde ce mot araméen, saint Marc écrit pour des romains. Il est le compagnon de saint Pierre, le secrétaire de saint Pierre, et il rapporte le témoignage de saint Pierre qui était présent au moment de la résurrection. Donc saint Marc va donner la traduction de Talita cum, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Et Jésus montre par là qu'il est plus fort que la mort. Bien sûr, hélas, cette jeune fille mourra à nouveau, comme plus tard, parce qu'elle est ressuscitée avec un corps comme le nôtre, mortel. Mais le Seigneur Jésus annonce quelque chose de plus fort, sa propre résurrection, avec un corps qui ne peut plus mourir. Ce sera aussi notre cas à la résurrection finale. De plus, il montre cette puissance de vie, puisqu'il est capable aussi de donner la vie à un mort, du moins la vie de l'âme, de le faire entrer dans la vie éternelle de Dieu, juste après la mort, même si le corps, pour un temps, attend la résurrection. Alors, quelques moyens concrets pourvu notre espérance pour nos défunts. Tout d'abord, une invitation à éviter un danger, qui est le spiritisme. Le spiritisme, c'est vouloir porter un contact magique avec ceux qui nous ont précédés. Cela est une grave erreur, faisant tourner les tables ou par les francs-maçons en voulant faire une chaîne d'union pour être en communication avec un défunt. Cela est très dangereux, car nous savons à l'expérience que non seulement les défunts ne répondent pas, mais c'est les démons qui sont passés pour eux. Donc vraiment à éviter le contact magique. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est par Jésus, qui est vraiment mort et maintenant ressuscité, qui s'est fait homme et qui est en même temps Dieu, qui fait le pont entre le ciel et la terre, par Jésus, nous sommes en communion avec ceux qui nous ont quittés. Et nous pouvons continuer à les aimer. Parfois, on peut se dire, pour certains cas, je ne l'ai pas assez aimé, parce qu'on pouvait ne pas être présent dans les derniers instants de notre défunt, eh bien, on a comme une culpabilité intérieure. Eh bien, sachant que nous pouvons continuer à les aimer, parce que leur âme, qui est leur identité profonde, n'est pas détruite par la mort. Ils ne disparaissent pas, ils ne sont pas évanouis, ils continuent d'exister. Notamment, on peut prier pour eux. S'ils ont besoin de ce temps de purification, eh bien, notre prière a une grande efficacité pour ces personnes. Eux aussi peuvent prier pour nous s'ils contemplent Dieu dans la gloire. Et puis, il y a un lieu spécial qui est tout à fait opportun pour prier pour eux, c'est la messe. À la messe, Dieu vient vraiment sur cet autel. À la messe, nous recevons celui qui fait le pont entre le ciel et la terre. Et c'est ce Dieu où nous pouvons confier spécialement nos défunts. Et quand nous communions, nous sommes unis profondément à Jésus. Et par Jésus, nous sommes unis avec ceux qui le contemplent dans la gloire. Priez pour nos défunts, continuez à les aimer. Et nous pouvons aussi les aimer en accueillant leur vie comme une sorte de message pour nous. Vous savez, dans la vie de chaque homme et chaque femme, il y a des belles choses. Il y a des sagesses, une sagesse de vie qui a parfois été trouvée très profonde. Et c'est pour nous, comme un message qui nous a été donné, que nous pouvons faire nôtre et imiter ce qu'ils ont fait de beau. Je pense à ce grand-père qui faisait des retraites tous les ans, pas loin d'ici, à Bieuzy-l'Envaux. Et par là, il a montré à ses enfants, à ses petits-enfants, l'importance de la retraite spirituelle. C'était un message pour ses enfants et ses petits-enfants. Une façon d'honorer, d'aimer leur grand-père, c'est de continuer à prendre ces temps de prière, de retraite. Ainsi, nos défunts, par leur qualité, leur union à Dieu, eh bien, nous transmettent un message que nous sommes appelés à imiter. Enfin, nous pouvons aussi espérer les retrouver, désirer le paradis, désirer y aller, et donc, bien sûr, éviter l'enfer et le péché mortel et choisir une voie de sainteté pour goûter cette vie éternelle que Dieu a faite. Vous savez, dans un de ses livres, saint Jean-Paul II nous dit « La miséricorde, c'est la limite que Dieu met au mal. » Et quand nous accueillons cette miséricorde, la limite est même donnée à la mort, puisque la mort devient provisoire. Nos défunts sont morts, mais ils dorment, car ils sont en attente de la résurrection finale au retour du Christ. Nous pouvons faire nôtre donc cette phrase du psaume : avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Amen.